Donc, pour, une fois les enfants devenus adultes, c'est quelqu'un qui m'a posé cette question, j'ai étudié ça, j'ai répondu à cette personne, hein, des gens qui passent. Hein. Une fois les enfants devenus adultes, quelle responsabilité reste-t-il aux parents? Et si de plus, il y a eu des traumatismes familiaux durant la période de la jeunesse, de la petite enfance de l'enfant, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, un enfant devenu adulte, point d'interrogation. Voici pour moi ce qu'est un adulte. Je peux me tromper encore. Un adulte, c'est quelqu'un qui travaille et qui assume sa subsistance. Et qui la gère avec une volonté, une intelligence efficace et autonome. Ça, c'est un adulte. Vous me direz, alors, quelqu'un qui est malade, qui est handicapé, etc. C'est mis à part, quand on ne prolonge pas la maladie inutilement, pour fuir le côté adulte. Ça, c'est différent. Si on est malade, on est malade, mais qu'on le reconnaisse, c'est pour un temps. Mais si on fait de la maladie une sortie du monde adulte, il y a d'autres raisons, alors, qui se passent et qui sont problématiques devant Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui travaille, qui assume sa subsistance, qui la gère avec son vouloir, avec plus ou moins d'efficacité, d'autonomie. Quelqu'un qui est devenu adulte, c'est quelqu'un qui gère son affectif et ses relations. Il arrive à réussir une maîtrise de ses convoitises et de ses sentiments. Il ne se jette pas dans toutes les aventures qui arrivent, dans tous les instincts et les désirs passagers, éphémères, brutaux. Et il réussit une maîtrise, ce qui n'est pas toujours facile. Une maîtrise de ses convoitises, donc de son péché. Il lutte contre son péché. Et il évite l'adulte, celui qui veut être adulte, en tout cas, qui a cet objectif-là, il évite d'être auto-centré. Auto-centré. C'est quelqu'un qui considère l'importance des autres, la place des autres. L'ouverture à autrui montre la richesse de quelqu'un qui devient adulte. Et l'ouverture culturelle à d'autres culturelles, à d'autres cultures, montre la richesse de quelqu'un qui devient vraiment adulte dans un monde pluriculturel d'aujourd'hui. C'est fini. Gaulois parmi les Gaulois. Hein? Mangeurs de frites avec les mangeurs de frites. Ou Russes avec les Russes, ou... je sais pas moi, breton avec les bretons, c'est fini tout ça, c'est terminé, c'est une époque qui est finie. Et donc, il faut, si possible, dans l'évolution, pour devenir adulte, une ouverture culturelle. Essayer de connaître les autres cultures, et de comprendre, et pas de rejeter. Voilà, ce sont des traits du caractère adulte. Alors, pour l'adulte, l'adulte aussi... C'est quelqu'un qui respecte et honore ses parents. Il a été fait, depuis mai 68, une promotion de interdit d'interdire et un exaucement du moi-je et de ses passions. Et toutes les valeurs traditionnelles de la famille ont été bousculées. Mais elles étaient déjà bousculées avec la guerre 14-18, 40-45. Hein. On déporte les gens dans tous les sens, on déchire les couples, on déchire les villages, on massacre tout. Et... je m'excuse de dire, beaucoup ont couché n'importe comment. Hein. Le résultat après la guerre, c'est que les esprits impurs étaient là, ça a donné mai 68. L'esprit d'insurrection, de rébellion de mai 68 ne vient que de population d'après-guerre dans des hommes impurs. Pour moi, c'est là que je le vois, comme dans Genèse 6. Comme dans Genèse 6. Et nous en payons les suites. Donc, quand il y a très peu d'adultes aujourd'hui pour moi. Il y a très peu d'adultes. Un adulte respecte ses parents, il honore les cheveux blancs, il honore ses autorités, il honore les lois, il honore la vie de la société. Et il ne cherche pas à la détruire. Il contribue au bien moral des autres et de soi-même. Il éveille son cœur vers le bien des autres. Il fait un travail sur lui-même pour éveiller son cœur pour le bien, vers le bien des autres. C'est ça le sens du respect. Une autre caractéristique de l'adulte, c'est l'adulte assiste sa famille, il prend en considération les cheveux blancs et les gens qui ne savent plus marcher, qui ne savent plus qui radotent, qui ne savent plus lire, qui ne savent plus s'habiller, parce qu'on en arrive tous un jour là. Je pense à Letourneau sans sonner. Quand vous voyez dans le ciel un million ou deux millions d'étourneaux qui volent ensemble, là, comme ça, qui font des courbes, là, qui font des spirales et tout, vous savez qu'il y a jusqu'à 4 millions d'étourneaux ensemble. Parfois c'est 200 000, 300 000, mais c'est effrayant. Alors il y a des scientifiques qui ont étudié ça, et ils ont comment ça se fait qu'ils ne se heurtent pas, et qu'ils ne sont tous pas en train de dégringoler avec les ailes cassées. Mais parce que dans leur cerveau, au niveau de chaque œil, ils ont en repère 7 autres étourneaux sans sonner. Ils ont comme un programme, un logiciel, qui fait qu'ils tiennent distance sur 7 étourneaux. Comme ils ont tous ce logiciel, ils sont tous à distance. Alors, quand vous voyez des films de Cousteau ou de Ushuaïa, là, de monsieur, comment ?
Hulot.
Les poissons, là, et tout ça qui circulent, ben c'est un peu le même principe. Il y a des logiciels, il y a une création divine là, derrière ça, merveilleuse, qui fait que, paf, ils ne sont pas tous en train de se casser la figure à tout instant, un contre l'autre. Vous imaginez le tableau. Vous avez déjà vu des bancs de sardines et tout ça, ils sont plusieurs millions ensemble, ils tournent parce qu'il arrive un requin, il arrive quelque chose, et l'animal est tellement perdu, il n'arrive pas à fixer, il y en a tellement qui bougent dans tous les sens, qu'il n'arrive pas à fixer et à en attaquer un. C'est la même chose avec des étourneaux. Les études, c'est sur Arte que j'ai vu ça, un aigle arrive, ou un rapace, une buse, il n'arrive pas à fixer un étourneau. Ils sont des centaines de milles, des millions à tourner, il ne peut pas, son cerveau ne connecte pas, il ne sait pas fixer un animal, et il ne sait pas l'attraper. Donc c'est une méthode d'autoprotection, et je vais dire que un être humain, il a un logiciel pour ne pas se planter. Il n'a qu'à le respecter. Il a un logiciel, c'est sa conscience. Il a un logiciel, il a des avertissements en lui. Au moment où il va faire les pires conneries, les pires choses, il y a quelque chose qui lui dit, mais si on ne l'écoute pas, si on n'écoute pas ça, ben on n'est même pas aussi évolué qu'un étourneau sans sonner ou qu'un poisson des mers. Nous avons l'art de refuser l'ordre que Dieu nous a donné, les ordres, les ordonnances, nous avons l'art de les bafouer en croyant qu'on peut les dépasser. Mais l'humilité, c'est de les accepter. Et c'est la richesse des humbles, des simples. Je pense que quelqu'un qui est adulte est arrivé à ce stade-là. Pas facile, vous me direz. Un adulte a trouvé un sens honorable et stable dans son existence, chaque jour. S'il a vendu de la drogue dans le temps pour vivre, ou qu'il a organisé des rencontres chaudes pour faire des sous, ou des trucs pareils, il ne fait plus. À un moment donné, il se rend compte que c'est horrible. Il a fait le bilan des choses bonnes et mauvaises, et c'est quelqu'un qui a, dans son existence, s'il a trompé son épouse ou son mari, il finit par en être dégoûté et à se reprendre. Fût-il athée, ce logiciel, il l'écoute. Cette conscience qui lui fait montrer le bien et le mal et qui l'accuse tour à tour, lui montrant ça c'est bien, ça c'est pas bien. S'il a de l'impertinence et de l'arrogance, on appelle ça alors vraiment le péché. Conscient et exercé. Pour Dieu, selon l'Évangile, on est adulte accompli seulement en Christ. Regardons Éphésiens chapitre 4, verset 24. Éphésiens 4, 24. Donc, je démarre au verset 17. Voici donc ce que je dis, je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, donc les étourneaux sans sonner qui ont abandonné le logiciel, hein, la sagesse que Dieu leur avait donnée au départ, qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc on voit que Paul dit, instruit à vous dépouiller. Dépouiller, c'est tirer les pouilles, c'est des vêtements sales, usés, troués. Les pouilles, c'était le nom des vêtements au Moyen-Âge. Et donc, pratiquement, instruit à vous dépouiller, tirer les vieilles pouilles, pourries, sales, du péché. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, nous avons reçu une intelligence. Nous avons reçu un esprit, nous pouvons discerner, nous pouvons choisir, nous pouvons faire l'autocritique, le libre examen de nous-mêmes, faire des retours sur soi, prendre du recul, et je dirais même avoir le dégoût de ce qu'on était, de ce qu'on a fait avant. Et alors, c'est que l'esprit se réveille, l'esprit prend le dessus sur les passions et les péchés. Alors, pourquoi, au verset 24, à revêtir l'homme nouveau, donc c'est Christ, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau en Christ, verset 24. L'homme nouveau en Christ. Il n'y a de véritable existence nouvelle et solide et vraie devant la face de Dieu qu'une vie en Jésus de Nazareth, le Christ. Sans péché, il n'y a de vie honorable et glorieuse devant Dieu qu'une vie en Jésus de Nazareth, le Christ, mort et ressuscité pour moi, qui, un jour, a voulu venir dans ma vie. C'est pas moi qui ai voulu. Et qui est venu? Qu'en ai-je fait? Qu'en ai-je fait? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc, l'ennemi redoutable de la foi, c'est le mensonge à soi-même, c'est le mensonge à la conscience. Rappelez-vous Nicolas Hulot qui quitte son poste de ministre, qui dit « Je ne veux pas mentir à moi-même, à ma conscience. » Très bien. Les tourneaux sans sonner a retrouvé son logiciel. Avant, il l'avait perdu. Séduction de la politique et autres. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Jésus dit ceci à son Père des cieux, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus dit ça à son Père des cieux. L'autorité de Dieu s'exerce dans sa parole, dans nos vies. C'est l'instrument de grâce, on peut dire le sacrement, si on se réfère à notre culture d'origine catholique. Donc, l'adulte découvre la lutte spirituelle, il découvre que sans l'homme, sans péché, sans Jésus, l'homme qui a le bon logiciel et qui le respecte, parce que nous, nous avons appris à le dérégler et à ne pas le suivre, depuis le péché d'Adam et Ève, eh bien, en suivant l'homme Jésus, et en l'aimant, et en se donnant à lui, nous retrouvons notre identité première et nous découvrons une lutte victorieuse. Éphésiens 6, 12. Je reviendrai tout à l'heure à la question que cette personne m'a posée. Enfin, c'était 3-4 personnes qui me posaient cette question au sud de la France, là-bas, dans les Cévennes. 14 questions, l'une plus longue que les autres. Au verset 12, Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Hein? Seulement. Parce qu'il y a des choses qui viennent de nous. La chair et le sang, c'est-à-dire ce qui vient de nos parents, de notre éducation, de nos passions, nos convoitises. On l'a vu dans Éphésiens 2. Mais là, Paul dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, les lieux célestes ne sont pas à 25 km. Par définition, le lieu céleste, c'est celui qu'on ne voit pas, qui est invisible, et qui est là, qui est avec nous. Et donc les forteresses spirituelles, et il faut prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que chaque jour est mauvais si nous ne luttons pas contre les forteresses spirituelles. Chaque jour est mauvais. Chaque jour sera bon si nous prenons le pied de combattre les forteresses spirituelles. En plus de notre nature, Éphésiens 2, il y a ce monde spirituel ennemi qui essaye toujours de nous tendre des traquenards, des ruses, de nous solliciter. Alors, la vie adulte chez le chrétien, elle dépasse bien sûr la vie adulte que j'ai décrite tout à l'heure, et c'est une vie adulte dans un combat spirituel. Et il est évident que ce combat spirituel ne peut pas se faire sans l'aide de Dieu, sans sa grâce. Jean chapitre 16, versets 7 à 10. Jean chapitre 7, versets 7 à 10. Je vous dis, il est avantageux que je m'en aille, Jean 16, 7 à 10. Il est avantageux que je m'en aille. Regardez comment Jésus fait. Il nous laisse devant notre vie spirituelle. Notre vie en l'esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice, c'est-à-dire la sainteté, et le jugement. En même temps, la justice, c'est aussi le pardon des péchés. Dans la justice divine, le pardon est donné à la croix, vous le savez. Donc, le mot justice a 3 sens. La sainteté, le pardon gratuit, la justification par le sang de Jésus, et l'obéissance au sang de Jésus, à Dieu. Donc, il y a évidemment une œuvre de l'Esprit Saint à multiples étages, multiples niveaux, une stratégie du Saint-Esprit en nous pour nous convaincre de rester attachés à Christ. Parce que par nous-mêmes, nous sommes trop faibles. Alors, vous lirez, si vous voulez, tout ça. Au verset 13, le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Rappelez-vous que la parole de Dieu est la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour me rappeler tout ce que Jésus veut me dire. Bon retour, bon dimanche. Tout ce que Jésus peut me dire, veut me dire, ou m'a dit, peut être rappelé par l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. En conduisant la voiture, en me promenant dans la forêt, sur un lit de malade, alors que je ne sais plus lire, j'ai tellement mal, je souffre tellement. L'œuvre de l'Esprit Saint est puissante à ce point-là. Il faut faire attention, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, la vie dans l'Esprit Saint. Il ne faut pas la demander quand tout va mal. C'est une pure folie. Hein? Alors, dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si Jésus n'est pas là, qui est là? Ben, son Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, je ne peux rien faire. Jean 15, verset 5. Maintenant, Romains 5. Romains 5. L'adulte, qui est toujours difficile à atteindre, c'est un objectif dans notre vie chrétienne, l'adulte. C'est quand même une image très positive. L'image de l'adulte dans l'Évangile, c'est une image très positive, mais qui n'est pas trompeuse. Elle est glorieuse. Elle est prometteuse. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que la puissance divine, celle que vous avez vue là dans les explications de Vincent, la puissance divine est à l'œuvre pour que ça s'accomplisse en nous. Imaginez, imaginez cette puissance, cette intelligence divine est à l'œuvre en nous pour l'accomplir. Faut-il, bien sûr, l'accepter du fond du cœur. Chapitre 5 de Romains, verset 26.
Il n'y a pas de verset 26.
Ah. Alors, bon, attendez. Ah oui, chapitre 8. Chapitre 8.
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Ce qu'il y a, frères et sœurs, c'est qu'il faut être vraiment convaincu. À un moment donné, on est quand même tour à tour médiocre, lamentable, enfin, c'est pas brillant. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Esprit Saint en nous, est un intercesseur puissant auprès de Dieu. Et quand Dieu du haut des cieux nous regarde, du haut des cieux, ça veut dire pas à 15 km, il est tout près, mais dans sa gloire, dans sa divinité, sa majesté, il nous voit, il voit le Saint-Esprit en nous. Et il écoute le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit mon état. Il lui dit mes faiblesses. Il lui dit mes précarités, mes trahisons, mes marches arrière. Il dit mais il ne va pas s'en sortir sans ton aide, Seigneur. Il faut que il intercède. Il y a une œuvre d'intercession. Il y a une œuvre permanente du Saint-Esprit en nous pour que Dieu vienne à notre secours. Parce qu'à des moments donnés, on pêche, on ne demande pas de secours. C'est quand on est bien dans la misère, dans les conséquences de notre péché, qu'on crie au secours. Et ça, c'est bien tard. Mais l'Esprit Saint a pris les devants. Quand se fait-il que, souvent, on finit par s'en sortir alors qu'on devant des tentations qu'on entretient dans son esprit, dans sa tête, des trucs qui viennent, des idées loufoques, bizarres, comment se fait-il qu'à un moment donné, ça s'arrête? Ça s'arrête et puis on a la paix. C'est pas les psychiatres qui guérissent de ça. C'est pas la psychologie ni les médicaments. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui à un moment donné dit, Seigneur mon Dieu, regarde ce pécheur dans lequel tu m'as mis. Il est temps que tu le délivres, il est temps que tu viennes lui redonner ta paix, il est temps que tu le délivres des liens dans lesquels il s'empêtre, parce qu'il n'a pas le courage de s'en dépêtrer lui-même. Il devient stupide. Alors, il y a quelqu'un d'extrêmement infini et intelligent et puissant et humble en nous, c'est l'Esprit Saint. Et le caractère adulte du chrétien se développe dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Le caractère adulte, il est impossible de l'acquérir. Je vous ai décrit tout à l'heure l'adulte dans la société, oui, mais dans le chrétien, tout est retourné. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui fait de nous un adulte en Christ. Parce que nous avons compris que tout est grâce et que notre nature qui a été touchée par le péché d'Adam et Ève, il n'est pas possible de la restaurer par nous-mêmes. 2 Corinthiens 10. Corinthiens 10. Est-ce que nous allons opposer l'Ancien et le Nouveau Testament? Est-ce que dans une théorie très simpliste, oui, il y a des choses nouvelles avec Jésus, parce qu'il est mort sur la croix et il a payé pour nos péchés. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des dons spirituels faits chez les croyants avant l'incarnation de Jésus de Nazareth? L'incarnation, j'ai dit. Parce que j'ai pas dit avant la venue de Jésus. Jésus est déjà venu avant. La preuve, 1 Corinthiens 10. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est Shekinah. Shekinah, c'est nuée, ça veut dire, c'est le nom du Saint-Esprit. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.
2 Corinthiens
1 Corinthiens 10. Et qu'ils ont, excusez-moi, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Un aliment spirituel, c'est pas forcément la manne qui est ramassée à terre. Ils ont mangé un aliment spirituel. Hein? Un pneumatikos, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Et regardez bien après, hein? Puisqu'il y avait déjà la nuée, la Shekinah les nourrissait. Les conduisait, les touchait leur âme et leur cœur, les conduisait. Et leur forgeait une nouvelle foi pour les débarrasser des idolâtries égyptiennes. Alors, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, quand Moïse frappait le rocher et qu'il demandait au rocher qu'il donne de l'eau, il s'adressait à Christ pour donner un breuvage, autant physique que spirituel, à son peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons évidemment des préfigurations du cadeau du Saint-Esprit, des préfigurations de l'œuvre de Christ, et déjà le peuple juif est touché par ces promesses. Il est déjà touché, il a des préfigurations, il a des signes très puissants. Pour devenir adulte en Christ, un jour. Si Dieu veut que nous marchions dans un corps humain qui est travaillé par des tendances humaines, malheureusement, encore même quand on est chrétien, si Dieu veut que pendant tout un temps on soit comme ça, en dehors de nous, à l'intérieur de nous, une lutte entre le nouvel homme et l'ancien homme, eh bien c'est clair, c'est que la victoire est quand même possible. La victoire est possible. Alors, dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, verset 3, 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons dans la chair, dans l'humain, hein, 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons dans l'humain, nous ne combattons pas selon l'humain, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, humaines. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, analysons bien. Ici, c'est un évangéliste, un apôtre qui dit ça, quand il annonce. Mais quand moi je vis en tant que chrétien, que je vois ça, je ne me mets pas sur le même pied que Paul, hein, que les apôtres. Il y en a qui ont prétendu être des apôtres, des nouveaux apôtres, hein, l'Église néo-apostolique, etc. Mais ce n'est pas ça. Ou à Rome. Hein? Mais ce qu'il y a, nous pouvons savoir que nos raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent en nous, les hauteurs qui s'élèvent en nous contre Dieu, et qui maintiennent captive notre vie chrétienne, qui nous empêchent à un moment donné d'écouter Dieu, qui nous empêchent d'être en paix avec Dieu. Tout cela peut être renversé. Dans le combat que nous avons en nous, nous pouvons avoir la victoire. Nous pouvons avoir la victoire contre ce qui se passe en nous, contre ces forteresses spirituelles qui nous assaillent. Il y a un combat spirituel en nous. L'ennemi et l'ancienne chair, les marques d'Adam et Ève, nous proposent toujours de pécher, nous proposent toujours de nous égarer, nous proposent toujours des choses tordues, des pensées tordues ou folles. Et de l'autre côté, la puissance divine est là pour venir à notre secours. Il faut savoir que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait cela. Plus vous aimez Jésus, plus vous aimez sa parole, plus vous approchez d'une réalité où vous le percevez. Vous percevez cette vie dans le Saint-Esprit. Et vous percevez le moment où vous n'y êtes pas. Vous percevez si vous avez vos souliers ou si vous marchez pieds nus. Vous percevez si vous êtes dans la voiture ou si vous êtes sur un vélo. Vous percevez si vous êtes dans le lit ou si vous êtes cassé la figure en tombant par terre. Eh bien, quand on est chrétien, on peut percevoir un phénomène spécial qui est la vie avec l'Esprit Saint et la vie sans l'Esprit Saint. On peut percevoir ce qui nous conduit ou ce qui nous détruit. Ce qui nous conduit. Bon dimanche à vous. Hein? Alors, vous voyez, ce qui est important, c'est que le caractère adulte, c'est d'admettre cette réalité contradictoire en nous, qui est vivable et qui est voué à la victoire. C'est pour ça que Jésus dit, si vous persévérez, vous sauverez votre âme. Je reviens à notre société. Quand les enfants devenus adultes, quelle responsabilité reste-t-il aux parents? Si de plus il y a eu des traumatismes familiaux. Peu d'enfants dans les familles chrétiennes vont arriver à cette vie adulte spirituelle comme je viens de la décrire. Peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de nier tout ce qu'ils ont reçu ou de le vivre. La capacité de dire oui. Il y a fondamentalement un acte de liberté. Papa et maman ne sont plus là. Et papa et maman ne peuvent plus diriger la vie spirituelle de leurs enfants. Donc, il y a une capacité de dire non, de renier, de renoncer. Bon, maintenant, agir aujourd'hui en société, dans une société libérale, où beaucoup de choses sont permises, hein, une société néo-socialiste, où c'est l'homme qui est au centre. On a dit que c'était pour s'épanouir. Tous les programmes pédagogiques, les programmes politiques, c'était pour s'épanouir. Et on voit de plus en plus que l'homme s'égare, et se dispute, se querelle, que le monde se divise. On ne sait pas où est la réussite de ce beau discours. On ne la voit pas encore arriver. Ce schéma idéaliste n'est pas réaliste. La Bible donne un schéma réaliste. L'homme est pécheur et doit se repentir, se convertir et recevoir Christ. C'est un schéma réaliste. Le schéma de la société, c'est un schéma de révolte contre la foi judéo-chrétienne. C'est un schéma insurrectionnel contre le message chrétien. Le message libéral et néo-socialiste et humaniste est un message d'insurrection contre la pensée, la révélation chrétienne. La culture idéologique aujourd'hui qui s'est installée, c'est je. Ce je, tous ces je qui cohabitent ensemble, qui sont, devraient en principe donner une réussite à la société. Tout le monde devrait pouvoir réussir. Or, on voit qu'il y a de plus en plus des gens au-dessus, de plus en plus de gens en bas, qui ne s'en sortent plus. Et des gens qui s'écroulent, qui vont en psychiatrie, en psychologie et en médicamentation. Et qui vont dans des échecs, pour la drogue, etc. Alors, où est la réussite du jeu? Est-ce que ce n'est pas encore un mensonge de Satan, tout ça? Il y a vraiment un paradoxe aujourd'hui entre la doctrine qui est programmée par la société et son caractère évolutique, la recherche des énergies, la recherche des puissances en nous, hein, l'épanouissement de soi, et puis il y a à l'opposé un message de repentance chez les chrétiens. Et il est totalement déplaisant au premier. Il est totalement désagréable, évidemment. Mais si le jeu avait réussi, si le jeu depuis 50 ans avait tellement réussi, si ces lois qui magnifient l'homme avaient tellement réussi, pourquoi on multiplie les démarches administratives et les papiers tatillons? Pourquoi on fait tellement de papiers pour surveiller tout le monde? Pourquoi on multiplie les ordinateurs pour tout vérifier? Les transactions d'argent, la vie privée des gens. Pourquoi on fait des lois de plus en plus sur la route? Pour tout contrôler. Tout contrôler. Nous allons bientôt avoir une boîte noire en 2020. Ou 22. Nous allons bientôt avoir des voitures programmées qui sont créées avec la vitesse réglementée sur la route. Donc, nous n'allons pas vers ce que mai 68 a proposé. Nous allons vers la répression. Nous allons vers un cadre légaliste et fort. Pourquoi? Parce que c'est l'échec du jeu, l'échec du moi, l'échec de l'autoliberté et de l'indépendance. Et on va vers un fascisme institué. On va vers une société dictatoriale dans un gant de velours. Donc c'est l'échec de la pensée néolibérale et néosocialiste. Aujourd'hui, pour nous, nous chrétiens, le seul réussite de la vraie liberté, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Je reviendrai sur tous ces sujets-là une autre fois, mais un jeune, qui a été déclaré jeune adulte à 18 ans, l'est-il à 30 ans? Un jeune qui a été déclaré adulte à 18 ans, l'est-il à 40 ans, à 45 ans, s'il a adopté la culture de mai 68, néolibérale, néosocialiste? Il arrive qu'à 60 ans et à 70 ans, il n'est pas encore adulte. Et c'est pour ça, regardez les poubelles le long des routes, regardez dans les forêts les sacs poubelles qu'on met, regardez la pollution dans les océans. L'homme n'est pas devenu adulte. L'homme est devenu prédateur pour l'homme, avec cette doctrine du moi-je. Alors, sommes-nous devenus adultes parce que nous avons légalement le côté adulte, l'aspect légal adulte à 18 ans? Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Chez les chrétiens, l'adulte est celui qui vit fidèlement en Christ et qui écoute le Saint-Esprit et sa parole. Il fera toujours du bien aux autres, à la société, à son prochain et à soi-même. Il luttera toujours contre son péché. Il n'écrasera personne alentour de lui. Il fera toujours l'œuvre créatrice de Dieu. L'œuvre du bien. On reviendra sur ces sujets-là. J'ai loin d'avoir fini avec les jeunes, avec ce qu'ils deviennent. Il faudrait y revenir, c'est compliqué, mais si on veut pouvoir aider des jeunes adultes ou des anciens jeunes dans la société à redevenir ce que Christ veut, il faut comprendre ce qui se passe dans leur cœur. Et pourquoi ils sont devenus comme ça?